À quoi tu penses?
It's just music.
This will twist your head.
Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless!
Bonjour et bienvenue sur Restless, c'est l'heure de Lug Stories pour ce mois de février. On avait un peu teasé cette émission en janvier avec l'invité déjà qui était avec moi pour parler de nos coups de cœur de 2020. C'est Léo qui est avec moi pour ce Lug Stories de février. Welcome.
Yes.
J'espère que ça va.
Bah nickel, et toi?
Bah oui, hein, depuis, c'est parlé il y a une semaine et demie, deux semaines.
Ouais, c'est ça, depuis une semaine et demie, toujours là, toujours en place. Comme il faut.
Bah grave. Moi, entre temps, il y a déjà une sortie qui m'a mis une grosse claque, mais on en parlera peut-être pendant l'émission, c'est Squid. Mais avant de parler de musique, on va peut-être parler de toi et tu vas peut-être nous expliquer le contexte, comment tu es arrivé à aujourd'hui, dans les grandes lignes. Parce que c'est vrai que dans l'émission de janvier, on s'est pas trop attardé sur ces détails, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu les parcours de vie qui nous mènent dans ce milieu de fou.
Bah ouais, carrément, avec plaisir. Alors, donc moi, c'est Léo L'Envers, et ça a donné mon pseudonyme LNVR, donc les lettres de l'envers sans les E. Et donc, je suis musicien, producteur, chanteur, dans énormément d'univers. On a pu le ressentir lors de l'émission précédente où ça oscillait entre punk, techno, trap, hardcore, voilà. Donc assez large. Et ce spectre musical, j'ai essayé de le transmettre aussi dans mes organisations de concerts, en particulier avec Fauchage Collectif, que j'ai fondé avec des amis en 2014. Et voilà, on a essayé de restituer cette polyvalence de style extrême et pas forcément extrême, mais on va dire atypique et en décalage. Donc voilà, on est sensible à ça, à l'expérimentation. Et plus particulièrement, c'était vraiment l'énergie du live qui nous a parlé. Et voilà, et donc j'ai pu aussi accompagner différents groupes dans ces différentes directions musicales. Et notamment aussi faire un groupe de synthèse électropunk qui s'appelle Princesse Napalm. Voilà, dans les grandes lignes, on est sur ce CV-là.
Et la musique, ça a toujours été un objectif ou c'était d'abord une passion et tu as essayé à autre chose et tu t'es bien rendu compte que en fait, il y avait que la passion qui comptait ou c'était une évidence dès le début?
Ça a toujours été un fil conducteur dans ma vie. Mes deux parents sont artistes. Mon père est musicien aussi et j'ai commencé un peu de guitare je devais avoir 5-6 ans, j'ai fait du piano, mais ça a toujours été une passion, un à côté. Et c'est vraiment au lycée, en reprenant un peu la guitare électrique, en commençant à composer mes premiers morceaux sur Guitar Pro. Donc je faisais des tablatures en midi, tu vois, ça sonnait vraiment pas ouf, mais c'est là où je me suis dit mais incroyable, on peut composer des morceaux en entier avec un ordi. Et donc, en fait, c'était ma première brique vers la MAO. Et donc ça m'a vraiment plu. Mais j'étais toujours dans ce truc des études où mes parents me disaient, tu fais ce que tu veux, mais débrouille-toi, en fait, parce qu'on ne roule pas sur l'or, donc va falloir assurer ta carrière sans être trop en galère de thunes, quoi. Voilà, une réalité qui peut s'entendre. Et donc je me suis lancé dans les études d'électronique jusqu'à un bac plus 5. J'ai bossé un peu dans ce domaine-là et donc toujours la musique en à côté. Et il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je me suis dit non, ça y est, je veux le faire, ça y est, mon métier c'est être musicien. Donc c'est assez récent en fait finalement. Que vraiment je me suis dit ça sera ça mon métier.
C'est marrant parce que au final on a un peu un parcours similaire sur certains points et ça me fait penser que on fait peut-être partie de cette génération qui a eu ce premier déclic de se dire ok, la musique c'est possible grâce à des logiciels, puisque moi c'était IG Music et j'étais vraiment jeune, hein. Je découvrais Doom en même temps, le premier, donc je devais avoir 8 ans, c'était sur l'ordinateur des parents de mon beau-père, donc même pas la famille directe, tout ça, mais eux ils avaient un peu de sous, donc il y avait cet ordinateur et je découvrais IG Music et pareil je me suis dit mais c'est incroyable en fait la musique,
c'est trop bien,
ça peut être juste, enfin juste entre guillemets, des pistes avec des instruments différents qui se chevauchent, t'as pas à prendre tous les instruments pour composer, et c'est vrai que moi c'était déjà un des trucs, je pensais pas que c'était possible, quoi. Et c'est marrant parce que je pense qu'on est peut-être la première génération à avoir vécu ça, enfin tu vois, étant petit,
ouais, je pense.
On découvre un logiciel de création, donc Yamaha. C'est vrai que IG ou Guitar Pro, c'était vraiment le début. C'était bien avant GarageBand, tout ça. Je sais que Nintendo avait fait un jeu de composition 8 bits à un moment.
Mais oui,
mais
oui,
mais c'était rare. C'était très rare.
Ça me faisait penser aussi, il y avait des... Je sais plus quelle marque de téléphone c'est, mais peu importe. Tu pouvais composer tes propres sonneries. Je sais pas si tu vois. Mais c'est juste ce petit truc... De dire, au lieu de mettre des notes et d'écrire sur du papier des partitions, tu mets des petits blocs MIDI au moment où tu veux ta note plus ou moins haute. Et en vrai, c'était une première initiation à ça. Et c'est en fait un premier pied vers la production et la MAO, quoi.
Exactement. Et c'est passionnant parce que maintenant, c'est quelque chose de tellement démocratisé que ça paraît évident. Mais au final, c'est très récent. C'est très récent, parce que on a à peine... Je ne crois pas que toi non plus tu les aies, mais moi j'ai 30 ans dans un an, un peu moins maintenant.
Et moi j'ai 30 ans dans quelques mois, là.
Ah bah voilà, on est de la même année, mais voilà, on a bientôt 30 ans. Et donc on est quand même assez jeune encore. Et c'est quelque chose qu'on a connu au début, quoi. Enfin, bon, on était petits, mais ça n'a pas plus de 25 ans, ça c'est sûr. Et ça, c'est fou. C'est fou de se dire qu'en 25 ans, c'est devenu aussi omniprésent, parce que maintenant, il n'y a pas un album composé sans ordinateur.
C'est clair, c'est évident. Et
c'est fini.
Moi, je trouvais ça intéressant aussi, le lien que j'ai pu faire un peu avec mon côté, un peu que tu dois avoir peut-être aussi, ce côté un peu, peut-être espace mathématique ou logique de comptage un peu. La première brique que j'ai eue en rapport avec la musique, c'est sur la superposition des tierces pour faire des accords. En gros, bon, c'est un peu sans rentrer trop dans la théorie musicale, mais tu te rends compte que tous les accords, tu peux les composer en faisant des superpositions de tierces majeures ou mineures. Et en fait, ça t'évite d'apprendre par cœur que un do c'est de septième, c'est telle note, telle note, telle note. Et en fait, ce côté un peu mathématique qui peut-être peut en faire hurler certains, mais y a une certaine structure logique et une certaine des suites en fait, certaines suites mathématiques qui marchent en musique, donc. Donc ouais, c'est large et c'est intéressant quand tu commences à les capter, de te dire bah ouais, en fait c'est un jeu avec des règles et des fois tu peux les apprendre pour les contourner et créer des choses trop bien.
Ouais, bah moi c'était la problématique quand je me suis lancé. Pendant très longtemps, je me suis caché sur le fait de pas vouloir trop apprendre de théorie musicale parce que ça a formaté en un sens. Ce qui est pas totalement faux, hein, je le pense encore un peu et je le vois. Hein, les personnes que je connais qui ont une grande formation musicale, conservatoire, 20 ans, tout ça, c'est des gens qui ont arrêté la musique parce que justement ils se sentaient étouffés là-dedans. Et ils étaient très peu créatifs, et moi j'ai le cas, je vais pas le citer du tout, mais puisqu'on se connaît pas directement de trop, mais un pote de pote qui est un grand chanteur lyrique ténor qui sort de la musique électronique en scred, qui a eu une des meilleures notes en composition au conservatoire de notre région. C'est pas original sa musique, et tu sens qu'il est très ancré dans des schémas.
C'est juste déjà aussi ce rapport aussi à des quarts de ton dans la musique orientale. Tu peux partir dans le microtonal. Enfin, c'est pas juste effectivement des notes. Ça peut être de la texture sonore aussi. Mais bref, voilà, effectivement, le sujet est très vaste.
Ouais, le sujet est très vaste. C'est vrai que moi, j'en reviens un petit peu, puisque je côtoie de plus en plus de producteurs dans le métier avec Loïc et tout. Et oui, je me rends compte que c'est important d'avoir des bases. C'est important aussi de se sentir libre de ne pas les respecter, en fait, tout simplement. Je pense que le conservatoire, c'était ça le problème. C'est qu'ils t'imposent, ils te font comprendre que c'est que ça et c'est la réponse à tout. Alors que non, et King Gizzard, tu parlais du microtonal, ouais. Le dernier album de King Gizzard, justement, c'est le deuxième album où il joue un peu sur ça. Enfin voilà, il faut s'amuser, la vie est un jeu, et la musique d'autant plus, l'art, tout ça, faut, je pense, garder cette partie ludique. Mais effectivement, la musique, c'est mathématique aussi, et les mathématiques, c'est la vie. Je ne suis pas un grand matheux, mais on va dire que j'ai quand même quelques... affinités avec les chiffres plus qu'avec les lettres, ça c'est sûr. Et du coup, ouais, c'est vrai que dans la musique, le 4, le chiffre 4 est déjà très important. que ce soit 4 temps ou 4 mesures. Et y a beaucoup de choses qui découlent de ça dans les musiques actuelles. Mais oui, et y a toujours des choses à apprendre, on découvre toujours des choses. J'ai eu quelques discussions moi, avec un producteur qui s'intéressait notamment beaucoup à la partie neuronale de la musique. De comment elle était reçue, pourquoi un morceau fonctionne ou pas. Et c'est vrai que c'est surtout une question d'oreille et d'habitude. Et il m'expliquait qu'on pouvait développer l'oreille absolue. Des scientifiques avaient expliqué la méthode, mais c'était une méthode un petit peu spéciale où, par exemple, quand la mère est encore enceinte, il faut que les parents parlent mandarin, russe et latin. Une langue latine.
Ah ouais, okay.
Si ces trois langues sont pratiquées avec un petit peu de diffusion de certaines musiques, donc musique classique, free jazz et ce genre de choses, eh ben, y a de très très fortes chances de créer l'oreille absolue pour l'embryon. Il y a des études qui se font de plus en plus dans
trop
ce sens.
Et
effectivement, moi, j'en suis, du coup, ça m'a fait comprendre pourquoi j'en étais là. Mes parents sont séparés très tôt, et mon père était clairement plus Serge Gainsbourg, Bob Marley, jazz, et ma mère écoutait autant d'Erita Mitsuko, Léo Ferré, Barbara que Deftones.
Ouais, trop bien.
Du coup, ça faisait déjà un spectre assez large, et le free jazz, je connaissais. Cheval de Frise, par exemple, c'est un groupe pas très connu. Je ne sais pas si tu connais, mais j'en passerai peut-être dans cette émission pour illustrer.
Non, pas du tout, mais avec grand plaisir pour découvrir.
C'est une sorte de free mat rock, on va dire. J'aurais du mal à le définir, mais tu sens que c'est deux musiciens de conservatoire qui s'amusent vraiment avec ça, qui sortent beaucoup de notes. C'est beaucoup de notes et des fois un peu acides dans les sonorités. Mais c'est vraiment guitare-batterie, guitare acoustique.
Trop intéressant.
Et c'était fou. Moi, j'écoutais ça, j'avais 10-11 ans. Ma mère passait ça dans le salon de temps en temps. Et les premières fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est inaudible. Et en fait, maintenant, j'adore.
Bah ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est normal. Je pense que c'est aussi normal d'être... d'être étonné, enfin, quand on découvre, je sais pas, le punk hardcore ou des trucs où ça crie, où ça hurle dans tous les sens, notre première réaction, c'est de... Je pense que tout le monde a été un peu étonné de dire, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Et quand tu vois, après, la puissance de ce que ça peut raconter, l'énergie que ça peut avoir en live, on revient encore une fois au truc du live, mais c'est assez vaste. Genre, pareil, quand tu découvres l'univers électronique ou le côté répétitif du kick hyper devant... au début, tu te dis, mais c'est bizarre, en fait, c'est tout le temps pareil. Et puis, après, quand tu vas un peu au-delà, tu passes cette étape-là du spectre musical et de te dire, ah oui, en fait, je vois quel est l'intérêt, qu'est-ce que je ressens, en fait, à ce moment-là. Et tu parlais du cerveau et de je crois qu'en fait, enfin, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que notre cerveau aime bien reconnaître des patterns. Et donc, du coup, ce côté boucle un peu qui est la suite, en fait, de la musique actuelle, c'est vraiment ce côté boucle, reconnaître des patterns, avoir une sensation où on se retrouve et on reconnaît en fait quelque chose, on reconnaît une boucle. Mais en même temps, ça questionne aussi beaucoup sur le rapport au groove, à l'humanisation, parce qu'un morceau qui est vraiment pile sur le temps, bien quantifié, ben en fait, on se dit, ça sonne pas bien. Il n'y a pas le groove, il n'y a pas le truc qui va bien, donc c'est intéressant ce rapport à la boucle qui peut être parfaite et bien sur le temps, et en même temps l'humanisation qui a besoin un petit peu d'aléatoire pour sentir la vie en fait dans tout ça.
Du coup, j'ai envie de passer le morceau d'un groupe qui s'appelle Sardouz, pas Sardoche, hein.
Oui.
Sardouz, S-A-R-D-O-O-S, et ça s'appelle Tardis, voilà, c'est dans le thème.
tardigrade, ad vitam, éternam, visage à découvert, pirate, c'est bizarre comme un putain de trou noir. Troué, la dimension s'ouvre, secoué, les tritons se bougent, couler du ciment dans leur bouche, accouché dehors, les histoires du buffle. Dallas roi des tardigrades, ad vitam, éternam. Je viens du cosmos comme toutes les formes sur terre, ricane plus fort que leur bande de hyènes. Corbeau croise, volo, tu des têtes. Manteau noir posé sur peau de vipère. Terreau, passe coutil, on craquen. Un tas de méduses mortes sur le sable fin. Rictus de crocodile sur le faciès. Les animaux de la ville, c'est moi qui les dresse. T'as la froid des tardigrades. C'est la fin du règne animal. T'as la froid des tardigrades. S'ouvrait ses cartes, parasite chante troué. Les dimensions s'ouvraient ses cartes, parasite chante troué. Les dimensions s'ouvraient ses cartes, parasite chante troué. Les dimensions s'ouvraient ses cartes, parasite chante. T'as la soie des tardigrades. C'est la fin du règne animal. T'as la soie des tardigrades. C'est le début du règne cannibal. Parasité jusqu'au bout des griffes. Par vie du seul, j'utilise ma grande gueule. Canidée, mon pelage s'agrandit. Fasciné par la lune, j'suis dans la meute. Mon adrénaline, c'est la chasse. Dès lors, j'examine toutes les proies. L'enfer sur terre dans le reflet de l'ivoire. Down, 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 simmer down. T'as la soie des tardigrades. C'est la fin du règne animal. Sur ma descendance, en même temps que leur décadence. J'ai coupé les gags de tous ces porcs. Croquer leurs os comme le grand blanc. Goûter leur chair en restant entre les dents. Colonise leur terre, graines volantes. J'autorise le mélange des sangs. Ouais, le mépris je l'ai jeté dans un étang.
De retour sur Restless, c'est Luck Stories pour ce mois de février, c'est JB de Luck Music. N'hésitez pas à aller voir notre site aussi, hein, Luck Stories, c'est tout con. Et vous aurez des playlists, des articles sur notre travail, notre catalogue, nos artistes. N'hésitez pas, faites des retours aussi hein, sur la page Facebook de Restless. Vous pouvez retrouver le podcast aussi sur Spotify. Et nous sommes donc avec Léo sur Restless pour Luck Stories et tu as choisi ce morceau qui était
Tardigrade de Dallas, production Pakun Jaran, qui est une exclusivité sur SoundCloud et vraiment il faut tanner Dallas pour qu'il le mette sur les plateformes parce que ça va plus du tout cette histoire.
T'as parlé un petit peu de fauchage, je sais pas si tu veux rentrer plus dans le détail ou si on parle plutôt de notre rencontre et de pourquoi, comment on en est arrivé là aujourd'hui.
Ouais, je peux parler un petit peu plus de fauchage effectivement pour voir un petit historique, notamment dans le fait où ce que je trouve intéressant dans un collectif et dans une association, c'est qu'il y a un côté très au début très fun entre potes où vraiment on organisait des concerts parce que on avait envie de faire en vrai initialement c'était même juste on voulait organiser des concerts avec Princesse Napalm mais personne voulait nous faire jouer donc on s'est dit on va le faire en fait tout simplement là.
Comme beaucoup d'assos et de labels. Exactement. Et d'organisateurs de concerts
et en fait toute la genèse même de Fauchage Collectif c'était un micro festival de courts métrages qui s'appelle Taille un short film festival. Et on avait organisé ça dans une fac à Paris, et c'était en fait les courts-métrages où Matteo de Princesse Napalm avait réalisé, voilà, ou filmé, ou avait participé à des courts-métrages. Et les autres courts-métrages, c'était soit des potes, soit des films où j'avais fait la BO. Donc c'était vraiment première session auto-promo, quoi. Et donc voilà, ça c'était les deux premières années où voilà, on petit assaut entre potes pour s'auto-booster, en fait. Et avec les années, donc c'est vraiment en 2017 où il y a eu un virage assez important, où on a dit, bah en fait, oui, on commence à faire jouer des groupes de nos potes, mais un peu partout en France. On commençait un peu voilà, à programmer autant à Rennes que à Lyon. Enfin voilà, on commence à avoir un petit réseau. Et en fait, on s'est dit, mais ouvrons l'assaut à plus de bénévoles. Et c'est là où il y a eu un vrai déclic, où en fait, on s'est retrouvés chez moi, on était 30, quoi. Genre, je pensais vraiment qu'on allait être 2-3 en plus, mais non, il y a eu une foule d'un coup de bénévoles trop motivés. Et c'est là où du coup Léa, donc Léa MKL, est rentrée dans l'association en tant que bénévole au début, et très vite, de par son implication, est rentrée dans le bureau et a organisé des choses encore plus folles.
Donc, le lien est tout trouvé, du coup, parce qu'effectivement, c'est par le biais de Léa et Yves que j'ai pris connaissance de Fauchage de mon côté. Et effectivement, le rapprochement s'est fait d'abord par Léa. Pour la petite histoire, on a fait la même formation avec un an de décalage. Vu qu'on parle du milieu de la musique principalement, ça vaut le coup que je parle de cette formation. C'est les formations d'Issoudun qui sont... de très bonnes formations, vraiment. Moi, ça faisait un moment que je cherchais à y rentrer, parce que c'est pas simple d'y rentrer. Ils font vraiment attention au recrutement, ils essaient de recruter de la manière la plus efficace. Donc, vraiment, recruter des profils complémentaires dans une promotion plutôt que de réfléchir à un taux de réussite à la sortie, même s'ils le prennent en compte, mais c'est pas la priorité. C'est vraiment de réfléchir à créer une osmose entre les gens. Et ça marche. C'est vraiment 6 mois d'une vie très intense. Et je ferme cette parenthèse, mais c'est important de le préciser, parce que donc Léa, je l'ai rencontrée dans le cadre de la soirée de la formation. Il y en a une tous les ans, plutôt fermée, hein. C'est pas open bar, on invite tout le monde. Mais dans ce cadre-là, un groupe jouait, qui était le groupe de mon collègue d'un autre travail, coucou Radio Béton. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette soirée, et très rapidement avec Léa, on a bien vu qu'on avait des aspirations similaires. Et on s'est dit, bah, Fauchage, ça a l'air trop cool, Loïc, ça a l'air trop cool, vas-y, il faut qu'on fasse des trucs. Et quelques mois plus tard, moi, j'ai cogité et je me suis dit, allez, go, on se lance sur ça. Et vous avez direct suivi.
Complètement.
Ouais. Et on a mis en place ce fameux anniversaire au Petit Bain.
Ouais, qui était incroyable.
Et c'était dingue, ouais. Et donc, pour revenir à ma question initiale, avant de parler de l'historique de Fauchage, parce qu'effectivement, c'est totalement ça, c'est le live et l'énergie du live qui nous a rassemblés. Moi, ce que j'ai vite ressenti avec Fauchage, ce qui me plaisait, c'est ce fait que y avait un groupe de électro-hardcore, que vous nous proposiez des noms de Cold Wave Queer. J'ai oublié le nom du groupe, c'est honteux, parce que c'était un des premiers groupes de la soirée.
Alors, à la soirée du Petit Bain ou parmi le collectif
Non, à la soirée du Petit Bain... je sais plus comment ça s'appelle.
Ben ouais, ça fait déjà un an, le cerveau il a grillé en un an.
Bah c'est ça, et voilà, ça arrive, nous on assume ça, on va pas faire les mythos, je me souviens de tout et tous les morceaux que j'ai écoutés des artistes pour qui je travaille, non, on est des humains. Mais c'était pas, j'ai Vorace en tête, mais non c'est pas Vorace.
Moi je sais que dans cet esprit là, il y a The Will qui est de notre collectif, mais finalement il avait pas pu être là pour cette soirée. Et on va retrouver, hein, un moment, ça va nous...
Bref, c'est pas grave. Je vais retrouver, mais du coup, ouais, c'est ça qui m'intéressait. C'est que déjà, il y avait ce truc, il y avait Angle Mort et Clignotant qui arrivait un petit peu dans l'entourage. Et voilà, Princesse Napalm, Angle Mort et Clignotant, j'avais ces deux projets-là. Après, j'ai vite découvert Miss France en plus. Et j'étais là en mode, mais ouais, enfin, c'est comme ça que je vois la musique aussi. Moi, j'ai jamais réfléchi en termes de style, c'est juste, ça me parle ou pas, et le dénominateur commun, moi, dans ce qui me parle, c'est quand même une certaine énergie, et même quand c'est que de la musique studio, la majorité des choses que j'écoute, c'est des choses faites pour le live aussi, et c'est vrai que c'était évident, en fait, pour nous C'est Casse-Gueule.
Oui, tu pensais à Casse-Gueule. Ok, j'allais le dire et je me suis dit, mais non, c'est évident que c'est pas Casse-Gueule. Mais en fait, si, c'est complètement Casse-Gueule. Ok, ok.
Bah, c'est vrai que moi, je connaissais pas et j'ai peut-être mal décrit le projet, mais je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais vraiment content d'ouvrir la soirée avec
ça. Ah oui, c'est
parce que c'est riche, quoi. C'est un univers riche. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait. Peu importe l'univers de l'artiste, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit allé au bout de son univers. Et c'est vrai que c'est ce que j'avais ressenti à cette soirée. Et cette soirée, donc, on avait vraiment réfléchi les choses pour avoir du live jusqu'à tard. Et ça a été le cas. Hein. C'est nous qui avons ouvert les hostilités du set. Et c'est la jungle qui a clôturé le live. Et il était presque 3h du matin.
Bah ouais, donc, même un peu plus, hein,
même plus,
je crois.
Ouais, 3h30, hein, c'est vrai qu'ils ont poussé un peu. Mais ouais, il était à peu près 3h30, donc on a eu du live pour une soirée parisienne. Nous, c'était notre première soirée, pas vous, parce que vous êtes sur Paris, mais c'était la première, une des premières grosses soirées que vous faisiez aussi. Mmh. Et en fait, ça a été un carton plein, on a fait complet... On a eu plein de retours sur le moment même de gens qui venaient nous voir en disant « bah j'ai l'impression d'avoir fait un festival ».
Ouais, c'est incroyable.
Ce qui est clairement un des meilleurs compliments moi qu'on pouvait me faire, en tout cas dans ce que j'espérais, et finir sur Ititanita à la jungle, pour moi c'était une évidence. Et quelques mois plus tard, ils finissaient, enfin même avant, un petit peu avant, mais c'était pas officiel, ils finissent chez le même booker qu'El Jerkoff. Donc en fait tout ça était très cohérent, alors qu'au final on aurait pu présenter les choses et beaucoup de gens auraient pu nous dire « Ouais, non, il n'y a pas de cohérence, il faut un style dominant. » Et il n'y en avait pas à notre soirée.
Ouais, c'est vrai,
juste l'envie de live.
Voilà, l'envie de live. Et bah, du coup, je rebondis sur ça, parce que c'est vrai qu'avec Fauchage, très vite, on a eu envie d'organiser des All Night Long, donc des formats 22h-6h. Et on a énormément de potes qui sont dans des collectifs DJ. Nous aussi, on mixe un peu... voilà, dans différents styles, encore une fois, plutôt électroniques. Mais trop bien, en fait, on s'est dit, mais nous, on veut pouvoir voir un groupe à 3h du matin et on ne trouve pas de soirée qui propose ça. Il y en a peut-être, mais en tout cas, pas assez. Donc nous, on s'est dit, ben voilà, on a envie de mettre ça en avant. Donc ça veut dire aussi, en termes de logistique, ça veut dire que ben, faut prévenir les clubs que... là, c'est pas juste 4 DJ qui viennent faire, enfin 4 personnes qui viennent faire la soirée de 22h à 6h, c'est potentiellement 20-25 musiciens. Donc en termes de catering, c'est pas pareil. En termes de gestion juste des personnes, hein, c'est toute une autre organisation. Mais à chaque fois, les gens, le public venaient parce que voilà, il y a du vivant, il y a du musicien sur scène. Et quand on peut. Et quand on a le lieu pour ça, de faire deux salles, une salle vraiment DJ, une salle vraiment live, c'est trop bien. Et c'est un peu ce qu'on avait réussi à faire aussi à Petit Bain.
Bah ouais, c'est clair.
Et donc d'avoir ce truc, bah, comme on disait, casse-gueule, où c'est vrai que le côté Cold Wave, je l'intègre maintenant, mais eux, ils aiment bien le terme de turbo chanson française. Donc on part de ça, turbo chanson française, on a des groupes punk hardcore, post-punk, on a de la techno, on a des trucs trap, voilà, englomeré clignotant qui viennent représenter ça. Enfin,
on avait fait
vaste,
du
quoi.
Doom Stoner avec Flowers, donc ça c'était ouais. Un artiste à nous. Enfin, des artistes à nous. Et ouais, c'est ça, c'était... déjà, la programmation s'est faite très facilement avec... mais je crois que t'étais pas là, la réu, quand on avait fait ça, c'était avec Léa et Johannes, le programmateur, un des programmateurs.
La toute première, non,
du Petit Bain.
Ouais.
Moi, j'avais pensé, moi, je voulais vraiment faire un projet, mais qui était déjà un peu trop cher, alors qu'ils avaient fait que deux concerts. C'était Ascendant Vierge, c'était le tout début du projet, et j'écoutais à fond leur premier single. Non, c'était Influence. Le premier,
ouais,
et Influenceur, déjà au début j'étais trop chaud, et effectivement je trouvais que c'était un des projets parfaits pour faire le lien entre L'Œil et Fauchage.
Complètement.
Parce que l'énergie, le fait que c'était Mathilde Fernandez, la chanteuse, est belge, Paul Seul, le producteur, est français, enfin bref, il y avait plein de choses qui faisaient que ça marchait, mais ils prenaient déjà le plus gros cachet,
oui,
de la soirée, alors qu'on avait des groupes confirmés qui venaient et qui avaient un peu baissé, donc on a laissé tomber, mais ce sera pour une prochaine fois, puisque je pense qu'il y en aura d'autres. Et c'est vrai que non, c'était une soirée vraiment... moi, c'est un challenge, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à la production d'event. Ça faisait quelques temps. Et c'était vraiment un challenge pour moi de me dire, L'Œil, c'est à Liège. Est-ce qu'à Paris, ça va intéresser des gens? Et au final, le mariage avec vous, c'est super bien passé, quoi, parce que ça a intéressé des gens, le fait qu'on se mélange. Et en plus, c'était... très naturel. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'était ambitieux. Au niveau des loges, il y avait du monde. On avait pas mal d'invites. Enfin, tu vois, il y avait des petites difficultés. Et même une prise de risque. Mais au final, tout s'est bien passé, quoi. Vraiment, sans accroc.
Franchement, carrément.
Et ça, c'était cool.
C'est ça qui... C'est intéressant, j'allais dire aussi, c'était trop bien parce que c'était effectivement, c'est forcément risqué de se dire, bon bah là, il y a quoi, il y a effectivement 5-6 groupes des DJ, et en fait, on avait tellement envie de faire une soirée où voilà, on se rencontre et on fait une soirée dont tout le monde se souvient. Je me rappelle que c'était le 31 janvier, donc il y avait ce phénomène Dry January juste avant, qui avait motivé pas mal de gens à se dire bon bah voilà, fin janvier je tiens un mois et fin janvier je fais cette soirée Leuk Fauchage, donc c'était super. Et au final, même si on a réussi à faire sold out, on est rentré dans nos frais justes, et c'est pour moi un très bon indicateur d'une très bonne soirée. Ça veut dire que on a été réaliste, où on n'a pas cherché à faire un truc trop pour le fric, et non plus pas trop à perte. Donc je trouve que c'est le bon indicateur.
Ouais, exactement. C'est vrai qu'on s'était vite mis d'accord sur ça. Nous, le but, c'était pas de se faire de l'argent du tout, c'était de créer un moment et de s'amuser avec les copains, et c'était le but, et ça a cartonné. Et franchement, moi je suis vraiment très content de cette expérience, et j'espère pouvoir la réitérer même de plus en plus. Et on en avait parlé, mais ce sera un jour fait, hein. On commençait déjà à travailler sur ça, mais faire venir Fauchage à Liège, et c'est vrai que ce genre de choses, oui. Moi c'est comme ça que je vois la musique. Et quand je m'intéresse à des projets qui font partie des projets qui m'ont intéressé, quand j'écoute comment ça s'est construit et comment ça a avancé, c'était comme ça en fait. Le business, la partie business, on va en parler un peu plus tard parce que c'est important d'en parler. Moi, mon point de vue, c'est pas de dire que c'est mauvais, mais faut faire attention parce que on fait pas ça pour ça en fait. Moi, si je voulais faire du business, j'aurais été vendre des masques. C'est beaucoup plus simple à vendre que de la musique. Et on va pas me dire chaque partenaire à chaque étape du développement d'un masque va pas te dire moi je l'aurais préféré un petit peu plus mauve, ou l'autre moins épais. Non, en fait, parce que la musique, c'est ça le truc, c'est que et c'est légitime, tout le monde veut donner son avis parce que tout le monde a un avis, et c'est pour ça que c'est incroyable, mais c'est aussi pour ça que c'est un métier un petit peu à part.
Très vrai.
Enfin, l'art en général. On parle de musique, mais l'art en général. On va peut-être refaire une petite pause musicale, comme ça on reste avec des thèmes bien marqués. Donc là, c'était le live. Je sais pas si t'as. On va être obligé d'un petit peu de continuer vite fait, mais un dernier mot sur le live et sur le futur du live. Parce qu'on en avait parlé dans l'émission de janvier, très brièvement, mais je pense que c'est important qu'on prenne 5 bonnes minutes pour parler de ça. Ouais. C'est le futur du live et qu'est-ce qui va arriver quand on va pouvoir refaire des concerts où on pourra pogoter et slammer. Je suis pas un gros fan de ça, par contre la majorité des concerts que je fais, il y en a.
Ouais.
J'avoue que le retour de cette normale là m'intrigue beaucoup.
Pas évident, hein.
Vraiment.
C'est pas évident du tout. On a pu avec Princesse Napalm avoir un extrait de vie de concert entre guillemets normal en septembre. On avait joué sur la terrasse du Trabendo avec l'orga du Supersonic. Et effectivement, les gens avaient des masques, mais quand même, on pouvait sauter, on pouvait un peu pogoter. Et c'était ce moment où on savait pas encore que ça allait repartir. C'était l'entre-deux-guerres, quoi. Et effectivement, il y a, en discutant avec les gens, il y avait un truc très chouette de libération en mode, trop bien, on peut rebouger et reprendre un peu d'espace. Et en même temps, des gens aussi qui m'ont dit, je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli ou quoi, mais j'ai plus envie d'avoir des pogos dans tous les sens, j'ai envie de profiter de la musique aussi et profiter du moment. Donc effectivement, je pense pas que ça va s'arrêter et que les pogos vont complètement s'arrêter, parce que moi j'adore ça, et le slam aussi, pour moi ça fait partie des concerts, mais je sens qu'il y a un truc, un angle qui change un peu, qui est de vouloir profiter plus de l'instant. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a été censuré pendant trop longtemps de ce plaisir-là ? Peut-être. Mais en tout cas, il y a une volonté de réflexion aussi sur la suite du live. Et aussi, je pense, beaucoup de collectifs aussi réfléchissent à comment rendre l'espace de concert safe et libre pour moi, un espace libre, c'est aussi un espace où on se sent en sécurité.
Bien sûr.
Donc, je pense que la suite, c'est aussi des réflexions en ce sens qui sont pour moi très cohérentes.
Ouais, bien sûr, c'est extrêmement important et on le voit, hein, la parole se libère aussi dans nos milieux par rapport à se sentir en sécurité, tout simplement. C'est extrêmement important de se sentir à l'aise parce que sinon, on ne profite pas du moment et c'est normal. Et il y a du travail encore à faire sur ça. Après, moi, personnellement, pour revenir au côté plus... physique du live. Je suis pas trop pogo et slam tout ça. Hein. Moi, j'ai toujours fait partie des gens qui préfèrent être tranquilles pour profiter du concert. Et si je veux sauter un petit peu, j'ai le droit. Mais je préfère qu'on me bouscule pas trop. Mais malgré tout, j'ai été voir Scarland ou Ossies et j'étais dans les pogo et j'ai quand même pété un câble et c'était trop bien. Donc voilà, après c'est vrai que peut-être que nous on a une expérience du concert intense dans le sens où on en voit beaucoup. Il y a eu pas mal d'études, tous les 10 ans le ministère de la Culture en France sort une étude sur... avec deux grosses guillemets, la consommation de la culture et comment les classes sociales, par exemple par classe sociale, combien de fois tu vas voir un concert et tout, et il s'avère quand même qu'il y a beaucoup de Français qui ne vont pas encore au concert et qui ne savent pas ce que c'est. Et j'espère que ça va changer, notamment avec ça. La nouvelle génération va peut-être un peu plus se dire « Ouais, les boîtes de nuit, c'est sympa, mais ça a l'air plus marrant quand ça bouge vraiment. »
C'est vrai. J'espère.
Mais bon, après... Ouais, moi, ce que j'espère, honnêtement, c'est peut-être... qu'on reviendrait sur l'idée de laisser la musique s'exprimer sur la voie publique une seule fois par an, en fait. Le problème de la fête de la musique, pour moi, c'est ça. J'espère qu'il y aura une certaine tolérance sur le fait de repartager de la musique dans la rue, parce que c'est trop bien, en fait.
Bien sûr. Il y a eu un peu, effectivement, de ce que tu disais... Il y a eu cet été notamment, vu que tous les clubs étaient fermés, un nombre quantité de raves, de soirées illégales, on va dire les choses clairement, mais en même temps, avec beaucoup de bienveillance aussi, autant que faire se peut. Moi, j'ai eu des expériences de soirées autour d'Avignon où, en fait, Avignon n'a jamais eu trop l'occasion de s'exprimer en termes de musique, puisque c'est une ville de théâtre à 3000%. Et en fait, voilà, des initiatives où on se sentait en sécurité, il n'y avait rien de débordant. Et en fait, ça faisait du bien de voir cette initiative-là qui n'a jamais pu avoir lieu pendant des années. Et je pense aussi quand même une certaine forme de tolérance aussi de la police, parce qu'à mon avis, dans un autre contexte, ça ne serait jamais passé ce genre de choses.
Bah ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai la petite frustration de l'été dernier, hein, c'est que je suis passé à côté de tout ça. Et en même temps, c'était voulu. Parce que voilà, moi pas de jugement, mais on est dans une situation complexe, c'est dur d'avoir un avis, de savoir ce qu'il faut faire, pas faire et tout. Mais c'est vrai que moi je commence à être frustré, alors bon, de par notre travail, des résidences, des petits trucs et tout, j'ai pu en faire. J'ai eu même la chance de faire un festival en septembre, le festival au Pop-Up,
ouais.
Et c'était cool, vraiment heureusement qu'il y a eu ça pour faire une petite respiration, mais ça manque énormément quand même, et moi j'ai cet espoir que cet entre-deux, parce que je pense qu'on va avoir cette période d'entre-deux à un moment où les gros événements n'auront pas lieu, mais des plus petits pourront avoir lieu, et donc compensera la perte d'activité des gros, et du coup on va peut-être avoir une plus grande liberté et de prise de risque sur les programmations, sur la manière de créer un événement. Pour l'instant, moi je suis optimiste dans ce sens-là, on verra si ça change, parce que bien sûr, vous inquiétez pas, Live Nation, AEG, les gros groupes vont tout faire pour réussir à maintenir leur activité. Mais bon, l'entre-deux va être intéressant, notamment quand on développe des projets.
Complètement, et ce que tu dis, c'est hyper intéressant sur la petite jauge, hein. Franchement, on le sent, je pense qu'effectivement, une transition possible, c'est ça, c'est la petite jauge. J'avais vu une conférence notamment à la Paris Electronics Week, où c'était des mecs, des makers, quoi, qui font des décors ou voilà, des scénographies portables, et il y a aussi une réflexion, je trouve, sur la dimension... on va dire dimension écologique aussi des festivals, quoi. Comment tu peux réfléchir, est-ce qu'on a besoin d'un système de light immense, de système de sono immense pour 10 000 personnes, même 20 000, est-ce qu'on peut pas recréer aussi des choses à échelle humaine, tout simplement.
Ah, si seulement, mais là, après, ouais, ça change toute l'économie de cette industrie, en fait. C'est ça le problème, c'est que... Enfin, le problème. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais clairement, actuellement, vu que la vente de CD s'est cassé la gueule puissance 15 000 et que le streaming ne compense pas, et ni la vente de vinyle ne compense pas, même si elle réaugmente, ça n'a rien à voir avec l'argent qui pouvait être généré début des années 90 par des ventes d'albums. Et ils ont dû compenser, et ils ont compensé par des événements de masse très chers avec... des moyens de justifier le prix de la place très cher, donc des show lights incroyables, un son de mieux en mieux, mais effectivement au détriment de l'écologie et de l'énergie consommée, sans oublier le transport de matos, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu sur une grosse tournée. Ça réfléchit à créer notamment peut-être par la SNCF, tout ça, des voies ferrées pour transporter des backlines, la backline, parce que je sais pas, un concert de Muse en tournée, c'est facilement, je sais pas, entre 20 et 30 smirmorques. Donc ça pèse, ça pèse sur le bilan carbone d'une tournée quand même. Mais c'est Massive Attack qui ont annoncé qu'à partir de maintenant, ils faisaient attention. Je ne sais plus exactement, mais il y a des initiatives qui se lancent de plus en plus et on verra comment ça se met en place.
Oui, il y a plein de choses, notamment je pensais au Festival Vision qui choisit depuis plusieurs années de limiter sa programmation d'artistes qui viennent en avion. Chaque année, ils divisent par deux, je crois, le nombre d'artistes qui viennent. Donc c'est pas mal, bravo.
C'est une super idée. Et c'est important, je pense, ce genre d'initiative qu'il faudra développer à terme. Bah du coup, on va écouter l'hymne de nos campagnes. je vais passer un truc, j'ai pas encore décidé, mais je vais au montage. Vous retrouvez la tracklist sur notre site internet, le site de Restless, ou sinon vous demandez, moi j'ai ça sous la main, mais en général j'annonce et désannonce la musique, mais c'est pas toujours simple. Je ne suis pas la personne la plus organisée du monde. À tout à l'heure.
We'll be right back. Du polar, c'est pas mon rythme. Café Honduras, comme Marguerite. Lire c'est bien, mais vivre c'est mieux. Et l'un rend libre et l'autre est deux. Écrire sa vie sous forme d'un manifeste. Combler ses défauts en un seul geste. Jeter lignes de texte de la cime à l'apex. C'est qu'une démo, un prétexte. Complète poétique, trop de mots on comprend pas. Quand t'as faim, tu manges des phrases. T'as pas mine, hésite, en bouche, exprime-toi. T'as l'esprit sain dans un coffrage. Gaffe à ta ligne, elle pèse et publie sur les réseaux. Apparence marketing taillée au kilo. Glace, pour se regarder, c'est le canard cista pour la serette. Vivre, dentifrice, gluten free, libre. Feu d'artifice hybride, vivre, vivre, libre. Vivre, café des cas, aspartame, vivre. Bière locale sans alcool, vivre. J'écris surtout des mythes, dommages pour les prolos. Dicté par le fric en quête d'Eldorado. Mon but remplir la caisse, chercheur d'or en quête. Comme un chef d'orchestre, check. Lâche à la banque un précédent déter. Grâce à des dents, tension sur cette déterre. Regarde de travers au fond, derrière l'emprunt. Garde un goût plutôt amer. Prends ton temps, trouve l'équilibre. Gagne de l'argent mais garde du temps pour le dépenser. Vision désuée, écoute la raison du banquier. Problème dans la caisse, la courroie. Rattrape le retard ou le coupable. Comme un bouffon dans la cour du roi, je tue le hasard à la courte paille. Bye. Vivre, dentifrice, gluten free, libre. Feu d'artifice hybride. Vivre, vivre, libre. Vivre, café des cas, aspartame. Vivre, bière locale sans alcool. Vivre, vivre, libre.
Sur Restless, c'est Lux Stories pour ce mois de février en compagnie de Léo, LNVR, son nom de scène, aussi président ou ancien président, je ne sais plus, de Fauchage, je dis peut-être une bêtise.
Oui, on va dire, tu peux dire membre du bureau.
Président en transition.
On va dire, ouais, fondateur dans le bureau, on peut dire plein de choses, membre actif. Allez, membre actif, c'est
tu bien. As choisi quoi comme morceau juste avant?
Alors, c'était un morceau complètement auto-promo. Puisque c'était le morceau Vivre Libre de LNVR, j'enfourche ma langue. C'est un morceau qui est sorti sur la compilation Génération Déviante, volume 2020, qui est une collaboration. Ouais, avec un clip qui sort la semaine prochaine, effectivement, lundi 15. Et donc cette compilation, c'est Fauchage et La Souterraine, qui est une production de deux entités avec plein de groupes incroyables également et un vinyle qui est disponible, donc plein de liens à venir incessamment sous peu.
Trop bien, moi ça me fait penser à mon projet de vinyle qui n'est jamais sorti, mais je reste toujours en stock la compilation Good Gem.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens de ce truc.
Non, ça me dit rien.
C'était au début de nos liens avec Fauchage que je lançais ce projet. Je voulais sortir une compilation, et je veux d'ailleurs toujours, parce que c'est toujours dans les papiers, c'est juste que ça demande un investissement de 1500-2000 euros, et si tout se passe bien, on se rembourse juste. Donc voilà, c'est un risque pas simple à prendre dans le développement d'une structure, mais l'idée c'était de faire une compilation sous le nom de Luck Music, vinyle, avec que des titres qui n'ont jamais été pressés en physique. Et qui ne sont pas chez nous.
Trop bien.
Et du coup, j'ai une compilation de 8 morceaux. Bah, y avait un morceau de Miss France notamment, mais c'était avant qu'ils viennent chez nous. En édition, mais ouais, il y a 8 groupes et j'étais content parce que j'avais chopé une productrice harpiste américaine, un rappeur français mais qui est à Londres, qui s'appelle Lost the Cat et qui est en train d'exploser d'ailleurs et que je trouve trop bien. Enfin bref, c'était ce type de projet. Qui m'avait motivé et compilation vinyle comme peut faire la Souterraine, c'est des bonnes idées en fait. C'est important de presser du vinyle rapidement avant de vous dire à la semaine prochaine, puisque on parle beaucoup déjà, mais c'est une vraie problématique pour moi, les archives de la musique. Il y a déjà eu des débats, hein, des conférences sur tout ça. On a appris par exemple que le master de Smell Like Teen Spirit, petit morceau que les gens connaissent quand même un petit peu, n'existe plus.
Ah non !
Le master n'existe
c'est
plus.
C'est pas vrai.
Il a brûlé dans un incendie. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les masters originaux des musiques en major sont très très mal archivés.
C'est fou, je savais pas du tout. Ouais.
Il y a des albums entiers qui ont disparu et tout, et s'il fallait les represser, bah ce serait compliqué, ce serait pas vraiment le master original, donc ouais, ça c'est des vrais débats, et donc notamment le hip-hop et le rap qui est complètement digitalisé à 90%, sans exagérer je pense, si admettons il y a un problème énergétique mondial et que les serveurs ne sont plus alimentés, bah en fait, le rap disparaît.
C'est fou. Ben d'ailleurs, ça me fait penser que la BNF reçoit chaque exemplaire normalement pressé physique en archivage. Donc moi, je sais qu'ils nous avaient contactés en disant « Ah bah tiens, vous avez sorti une compilation et tel ou tel artiste, envoyez-nous 2 exemplaires de CD physiques pour archivage. »
La BNF, c'est la même bibliothèque...
Bibliothèque nationale François Mitterrand.
Ouais, mais est-ce que c'est en partenariat avec Radio France ?
Bah, très bonne question.
Parce que je me demande si c'est pas la même... Nous, on a été contactés par les archivistes de Radio France, à qui on fait coucou, hein, parce que vraiment, ils nous ont envoyé plein de...
Très très chaud.
Ils nous soutiennent vraiment et ça fait vraiment plaisir puisqu'on n'avait rien demandé et c'est eux qui sont venus et c'est les plus grandes archives vinyles d'Europe. Donc c'est pour ça que je me demandais.
C'est possible, j'ai retrouvé le lien. C'est donc Bibliothèque Nationale de France, département audiovisuel, dépôt légal des phonogrammes, qui est François Mauriac. Donc effectivement, ça semble...
Ok, mais écoute, à vérifier, mais après c'est peut-être parce qu'on est belge et qu'ils font que tout ce qui est pressé en France, mais c'est important l'archivage, vraiment. Et donc il y a beaucoup de musiques qui ne sont juste pas pressées parce que ça coûte cher. On va dire pour 300 vinyles, vous en aurez au moins pour 1 500-2 000 euros. Donc c'est un investissement. C'est bien de clôturer sur ça pour la première heure, je trouve. Peut-être que tu avais un mot à rajouter avant que l'on se dise à la semaine prochaine. Enfin, à dans 2 semaines, d'ailleurs.
Bah écoute, non, c'était un plaisir. On a parlé de plein de sujets, c'est vaste, et on a envie de continuer de discuter de tous ces sujets pendant des heures, mais il faut savoir s'arrêter.
Exactement, mais teasing, le plus gros sujet n'est pas encore arrivé. Ouais.
Et merci en tout cas pour cette invitation de radio, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
Mais de rien, et bah dans 15 jours pour continuer cette discussion. Et restez sur Restless. Take a man!
quoi tu penses?
It's just music.
This will twist your head.
Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless!
Restless!
Restless!